Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
Vous écoutez
Martino,
Cube Radio.
Alors, on en discutait tantôt avec Emmanuel Latraverse. Là, il y a toute une question là, sur la transparence du gouvernement, parce que là, il y a des gens, des propriétaires de gym, des propriétaires de restaurants, des propriétaires de salles de cinéma qui disent, vous voulez fermer nos commerces. Sur quelle étude vous vous basez pour dire ça? Est-ce qu'il y a des études qui affirment que nous sommes des sources d'éclosion? Si oui, on veut les voir. Soyez transparents. C'est un peu l'exercice que fait l'Institut économique de Montréal, le 24 juillet dernier quand même, ça fait déjà un bout de temps, le 24 juillet, l'Institut économique de Montréal fait parvenir une demande d'accès à l'information à 4 ministères, dont le ministère de l'Éducation, de la Santé et des Finances, pour obtenir justement ces documents-là qui ont justifié le confinement, la fermeture de certains commerces, en disant, ben, écoutez, on veut juste savoir là, c'est quelles études vous avez consultées, c'est quoi les documents, tout ça, et ben rien. Rien. C'est une demande d'accès à l'information. Il s'est rien passé. Donc, nous allons parler à M. Miguel Ouellet, économiste et directeur des opérations à l'IEDM. Bonjour, M. Ouellet.
Oui, bonjour, M. Martineau.
Ben, c'est bien sûr, vous vouliez avoir là, sur quels documents, sur quelles études vous vous basez pour fermer certains commerces, pour prendre certaines mesures, là.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, en juillet dernier, on a acheminé, comme vous le disiez, là, des demandes d'accès à l'information à 4 ministères. Simplement pour mieux comprendre sur quelles études le gouvernement du Québec s'est fié pour déterminer les mesures de confinement qui ont été mises en place. Donc, nous, ce qu'on voulait savoir également, c'est à quel point les approches utilisées à l'étranger sont étudiées par nos experts. Puis, si on avait eu des réponses, bien, c'est sûr qu'on aurait pu les véhiculer aux propriétaires de gyms, de restaurants, à la population en général. Donc, c'était pour mieux comprendre pour nous, mais aussi pour la population en général. Et on n'a pas eu de réponse de la part des ministères, à part du ministère de la Santé qui nous a envoyé des avis de retard.
OK, mais là, 3 mois, c'est pas normal. Ça. Habituellement, c'est beaucoup plus court que ça, les délais pour l'accès à l'information.
Mais le délai légal prévoit 20 jours pour une réponse. Mais j'aimerais ça vous dire vraiment là que c'est pas normal. Mais malheureusement, ça arrive souvent et trop souvent. On espère plus de transparence du gouvernement, surtout dans une démocratie. Donc, ça arrive quand même régulièrement qu'on se fait pas répondre, pas juste nous, mais les chercheurs, les journalistes, aux demandes d'accès à l'information. Mais là, en temps de pandémie, quand on sait que les mesures ont autant d'impact sur la santé psychologique, financière, sur l'économie pour les gens, donc là, je pense que c'est un bon moment qu'on devrait avoir des réponses.
Et Monsieur Ouellet, on va vous dire, là, parce que c'est un peu l'argumentaire qu'on utilise, on est en guerre. On est en guerre contre un virus et dans une période de guerre, ben on a le droit de ne pas être transparent. Il y a des cellules de crise. Je pense pas que Churchill, pendant la guerre contre les nazis, disait tous les tenants et les aboutissants des discussions qu'il y avait avec sa cellule de crise. Bon, on va dire que en guerre, c'est nécessaire à un moment donné pour protéger la population, pas créer une panique, de ne pas être transparent. Vous en pensez quoi?
Bien, en fait, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la Taïwan sont aussi en guerre contre l'ennemi invisible qui est la COVID-19. Mais pourtant, ils font preuve de beaucoup plus de transparence que nous. Donc, si tout le monde n'était pas transparent, il y aurait peut-être une raison de ne pas l'être. Mais là, encore une fois, c'est le Québec qui n'est pas transparent. Puis, c'est pas juste en temps de guerre qu'il l'est pas, c'est aussi en période normale qu'il répond pas aux demandes d'accès à l'information. Donc, je pense que c'est un problème beaucoup plus profond de la transparence au gouvernement que seulement celui en temps de pandémie.
Là. Parce que là, on voit, il y a des gens, là, bon, les gyms qui voulaient faire la désobéissance civile, mais c'est parce qu'ils disent, eux autres, vous nous expliquez pas, là. Si vous nous expliquez quelles sont les raisons que vous dites qu'on doit fermer les gyms, c'est parfait. On n'est pas des fous. On va embarquer. Les propriétaires de cinéma disent ça, les propriétaires de restaurants, mais on veut être partie prenante, mais vous nous infantilisez. Vous nous dites, là, ça va être ça, c'est ça la décision. On n'a pas à vous expliquer pourquoi.
Exactement. Donc, c'est une approche qui est un peu paternalistique, je dirais. Paternaliste, je pense. Mais effectivement, puis moi, c'est la même chose que les propriétaires de gym puis les propriétaires de restaurants. Si on pouvait arriver à mieux comprendre les décisions du gouvernement, peut-être qu'il y aurait un peu moins de colère dans la population générale. Donc, si on avait accès à ces études scientifiques-là, à ces documents, ben là, nous, en tant que chercheurs, on pourrait mieux comprendre, puis même, on pourrait même appuyer le gouvernement sur certaines mesures, lui dire, bon, regarde, telle mesure, c'est peut-être pas l'idéal pour l'économie, l'autre, c'est peut-être l'idéal. Donc, justement, si on avait toutes ces études-là, on pourrait bien mieux comprendre et aussi aider le gouvernement.
Et là, PSPP, le Paul-Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, qui dit on devrait avoir là, un genre d'observateur indépendant qui est là, qui écoute les discussions dans la cellule de crise, qui prend des notes, qui rend compte à la population. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée?
Ben, en fait, tout ce qui pourrait favoriser plus de transparence en ce moment, je pense que ça devrait être envisagé. Puis aussi, je pense qu'une des choses premières qu'il faudrait faire en ce moment, c'est respecter le délai légal par rapport aux demandes d'accès à l'information. T'sais, c'est sûr qu'on est en pandémie. Donc, on pourrait comprendre si il y a un avis de retard qui nous dise, bon, regardez, on vous revient dans 2 ou 3 semaines. Ça, il n'y aurait pas de problème. Mais là, c'est silence radio. Puis c'est ça qui est inquiétant.
C'est de plus en plus difficile, on dirait, d'avoir des informations de la part du gouvernement fédéral, de la part du gouvernement provincial aussi. Là. Essayer d'avoir des informations sur Hydro-Québec, vous, il faut se lever de bonne heure en maudit. Là.
Oui, effectivement. Puis c'est pas juste à cause du gouvernement actuel. C'était le même aussi il y a plusieurs années. Donc, je pense que c'est vraiment rendu ancré dans notre démocratie que pour avoir des documents, pour avoir des informations, c'est difficile pour faire des demandes d'accès à l'information. Puis il y a plusieurs pays dans le monde, dont les pays scandinaves, qu'il y a beaucoup plus d'informations qui est disponible sur Internet, sur les réseaux et tout ça. Donc ça pousse, ça l'incite, si je peux me permettre, les politiciens à mieux gérer les finances publiques, à mieux agir, parce que quand on est transparent puis que tout le monde sait ce qu'on fait, bien là, c'est sûr que c'est une grosse incitation à bien faire son travail.
Eh oui, puis pourtant, la meilleure façon de mettre les gens de son bord, c'est de leur expliquer calmement, veut dire, on est majeur et vacciné, on n'est pas des tatins, on va comprendre, on n'est pas des enfants.
Exactement.
Ben, merci beaucoup, M. Miguel Ouellet, économiste et directeur des opérations à l'Institut économique de Montréal. Merci.
Merci, M. Martineau. Au revoir.
Déprimant, ce qui se passe.
C'est toi, ça, M. Martineau.
C'est moi.
C'est le fun, hein? Ça fait rappeler M. Martineau. Ouais. Hey, moi, j'ai une question quiz pour toi.
Ah ouais, donc.
On fait une gageure, là. Je pense qu'on n'a pas le droit, mais on fait une gageure. Une bouteille de vin de qualité, là. Pas la piquette que tu bois d'habitude, là. Quelque chose qui a de l'allure. Est-ce que Justin Trudeau va présenter ses condoléances à la France d'ici une semaine? Là, ça a été 11 jours pour Samuel Paty. Là, pour le cas des 3 victimes, à Nice, dans
c'est
une église.
Victime d'un incident malheureux.
D'un incident malheureux. Oui.
Ça arrive des incidents
jette
malheureux.
Jette pas de sur le feu.
Ah non.
Tu sais ce qu'ils vont dire. Fait que là, c'est combien de temps Justin Trudeau va prendre pour présenter ses condoléances? Ce que je pense Valérie Plante n'a pas fait non plus auprès du maire de comment ça s'appelle? Sainte-Honorine? Conflans-Sainte-Honorine. Je pense pas qu'elle l'a fait. Moi, je trouve que c'est indécent. Je lui ai parlé, je lui ai présenté nos condoléances en son nom. Combien de temps à Nice, là, on va appeler le maire de Nice pour...
Et Avignon.
Avignon, une autre attaque.
Et ça a pas, heureusement, le gars n'a pas réussi.
Ça doit être la pandémie. Parce que c'est nouveau, c'est un phénomène nouveau.
Mais ça fait longtemps que je le dis, les radicaux bouddhistes...
Faudrait intervenir.
C'est les bouddhistes.
Et Marois Risky a été obligé d'envoyer la police hier chez un autre prix Nobel qui a envoyé le même genre de message,
ben
qui a
oui.
dit que ça allait dégénérer parce qu'il y a une prof qui comptait présenter les caricatures de Mahomet ici au Québec. Là, tu sais, qu'est-ce qui se passe?
On salue hein, Marois Risky qui a déposé Absolument. Une motion là, justement pour ouais. condamner, puis elle l'a prononcé le mot en « i ». Islamiste, elle a pas eu peur. Là.
Ouais. Le maire de Nice a parlé des islamo-fascistes.
Oui.
Puis c'est ça le terme. C'est ça le terme. Mais là, évidemment, toutes les grugeux de balustres, les reniflus de pèteux, des multiculturalistes, tous les chroniqueurs de la presse, évidemment, vont s'en prendre à nous, puis vont dire qu'on jette de l'huile sur le feu. Moi, je pense qu'il faut identifier le problème. Il faut refuser la violence de tous côtés, de tout bas, de tout côté.
Il y a une animatrice de Radio-Canada qui interviewait Michel Onfray. au lendemain de la décapitation du prof. Puis il a dit, ouais, mais la France est quand même un peu à blâmer, tu sais.
Wow.
Wow.
Wow. Fait que j'aimerais ça qu'elle établisse c'est quoi les critères pour éviter de se faire décapiter en pleine rue quand t'es professeur d'histoire. J'aimerais ça que cette animatrice de Radio-Canada fasse, c'est qui décide la liste.
De quoi tu nous parles aujourd'hui? Ben,
ah, de rien. De rien. J'écoutais de la musique tantôt en préparant l'émission. J'écoutais la musique des années 70.
Quoi? Qu'est-ce que
j'ai eu? Ah, non, c'est un truc qui joue, là, c'est les années 70. Ah, tu dis, ah oui, hein? C'était le fun, à cette époque-là. C'est fun. On avait 10, 12, 15 ans. Il me semble on écoutait de la musique, simili disco, pas trop, j'haïssais ça, du funk. C'était le fun, ça faisait du bien, les chansons d'amour étaient le fun.
J'aurais aimé ça avoir comme 25 ans dans les années 70. J'étais trop jeune.
Bah, non, tu serais malade aujourd'hui, t'aurais une gonorrhée ou quelque chose. Mais c'était quoi la chanson « That's the time, I feel like making love to you » J'entendais ça juste avant de partir, je me dis c'est bien cool cette musique-là.
Barry White.
Barry White qui t'incitait juste à être un petit peu cochon, mais pas
mais
trop.
Oui.
Pas porno, pas triple X, juste amoureux cochon. Tu sais, puis d'être là quand...
Il n'y avait pas de rectitude politique, il n'y avait pas de petit curé qui dit « Oh, t'as dit ça? »
Ouais. Il me semble que les gens chantaient de l'amour, c'était cool. Ouais. Tu avais le goût d'être amoureux, tu avais le goût d'être fin avec ta blonde. Tu sais, là, les femmes chantaient aussi. Pis c'était pas parfait, là, à l'époque, là, pour tout le monde. Fait que j'écoutais ça. Alain Pronkin, à 10h30, sur le Vatican qui a dénoncé l'attaque à Nice. Toujours rien de Justin Trudeau. Alors, c'est 11 jours. Voyons voir s'il va briser son propre record d'indifférence.
D'indifférence.
À l'islamo-fascisme, parce qu'il faut pas le dire. À 11h, on a Félix Séguin et Ninon, attends, je vais pas me tromper. Ça,
la réalisatrice du documentaire.
Du documentaire, Scopa et moi, c'est Ninon Pedneau, c'est ça, j'étais sûr, mais j'ai pas osé. Alors, on va leur parler tantôt, c'est sur l'ICO ce matin. Et comment Félix Séguin et Éric Thibault sont plongés dans l'univers d'Andrew Scopa, qui est un importateur majeur de dope, qui a été assassiné le jour de l'anniversaire, si je me trompe pas, de Félix Séguin.
Oui.
Puis il raconte comment Scopa l'appelait. Hey, la loi 101, là, puis la mafia, c'est deux en chien.
Quand il y a eu un enfant, quand Félix Séguin a eu sa deuxième petite fille.
Sa deuxième fille, ouais.
Scopa, et il a donné un cadeau, il avait pour 6 000 $ de pyjama.
Ouais.
Fait que lui, il a dit, ouh.
6 000 ou 600, là, mais
600,
ouais.
600, ouais, okay.
Ouais, plein de pyjama. Mais aussi à l'anniversaire de sa plus vieille. Il a appelé pour lui. Là, tu dis, ça donne froid dans le dos d'être ami avec quelqu'un qui parle de tuer, tu sais, qui parle de... Et à midi, on va...
Mais si il y avait des problèmes, mettons, Félix, là.
Ouais.
Ben, il pouvait appeler Andrew, puis Andrew, il aurait réglé ça.
Ben, c'est problème.
Mettons, t'as un voisin qui était cœur, là.
Ouais.
Il aurait appelé Andrew en disant, règle-moi donc ça,
ouais.
Andrew.
je veux aborder un problème avec votre voisin. Vous roulez trop vite dans la rue. Si j'étais vous, je me calmerais un peu.
Gilles Proulx me disait, tu sais, Régis Lévesque est mort. Puis il me parlait de Régis Lévesque. Puis à un moment donné, Gilles, il y a eu un problème, je sais pas trop quoi. Oh oui, pendant la crise d'Oka, il y a des gens qui en voulaient à Gilles parce qu'il allait fort, ces Amérindiens, puis tout ça. Il y avait des menaces. Fait qu'à un moment donné, il y a toute la gang des Hilton, puis tous les boxeurs qui sont arrivés. Toute l'écurie de Régis Lévesque, il dit, moi, t'as envoyé mes gars. Toute cette gang de boxeurs-là avec le nez plate, le nez cassé, sont arrivés pour défendre Gilles.
Oh boy, ouais, ça c'est avoir des amis bien placés. Puis à midi, on va parler à Mme Pilate qui a fait l'étude pour le SPVM sur les corps policiers. On sait que l'UPAC est un grand succès. Quand tu rassembles des corps policiers, ça va toujours bien. Pas, y a pas de conflit, y a pas de,
tu sais, de... Ça a pas de bon sens, ça. Prendre une super méga grosse police pour trois grandes villes, voyons donc.
Puis pendant ce temps-là, tu sais, tu veux développer la police de quartier. Puis tu sais, tous les policiers, tous les chefs de police disent la même affaire de Jacques Duchesneau, Fadi Daguerre. Ils disent, tu sais, il faut que tu sois sur le terrain, que tu établisses des liens de confiance avec la population, avec certaines communautés qui...
Pas des institutions, là, avec des organigrammes.
À la Gaétan Barrette. Gaétan Barrette l'a fait pour la santé.
On a vu ce que ça a donné.
Ben, c'est ça. Un autre grand succès.
On va t'écouter. Plusieurs personnes ont mis l'épaule à la roue pour faire cette émission-là aujourd'hui. Merci beaucoup à Véronique Morin à la recherche, Maude Boutet aussi, Alexandre Moranville-Ouellet aussi, et à la console Achille Moinet. On se reparle à 8h demain, puis on écoute.
Envoyez donc.
On écoute.
Barry White.
The Love Teacher.
C'est ça. Non, Achille, j'en prie, garde-toi une petite gêne. Mais c'est ça, la toune. C'est ça, j'écoute. Écoute ça, écoute-le un peu, là. On a le temps, on est à Cube, là. On attend, écoute ça. Non, mais ça tue toute haine en toi.
Non, mais ça vise le bas du corps.
Non, ça vise le cœur. Puis elle dit, tu sais, on est à la table, on mange ensemble, on se prend la main, Il me semble qu'on a oublié ça. C'est vieux, là. On est des vieux schnocks, là, tout est évident. C'est pas du rap. Tu comprends que
c'est pas le genre de musique que l'auteur de l'attentat terroriste à Nice écoute.
Non, il écoute pas de musique, là.
Il écoute pas de musique.
Il devrait, par exemple. Il devrait faire jouer ça un peu.
On écoute l'émission de Love Teacher.
Yeah, that's me. Come on, baby.